18h au studio Kalangou, 18h à Niamey et partout au Niger. Bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Tout de suite, le journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. À la une de cette édition, remise ce matin au Palais des Congrès de Niamey des prix de la première édition de la compétition des plans d'affaires sur un total de 2272 jeunes Nigériens porteurs de projets, 102 ont été primés. Démenti formel de l'existence d'une milice Peul d'autodéfense regroupant des Peuls du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Information véhiculée sur les réseaux sociaux et démentie par Diallo Aboubakar, président du Conseil des éleveurs Nord-Tilabéri, que vous entendrez. Et puis ce soir, dans votre partie magazine, il sera question de la dénaturation du tobey-tobey, une pratique qui consiste à transformer les enfants en clowns dans la nuit pendant le ramadan, et ce à partir du 15e jour. Bienvenue messieurs, dames. Remise ce matin au Palais des Congrès de Niamey des prix de la première édition de la compétition des plans d'affaires, une initiative de la Maison de l'entreprise et la Chambre de commerce et de l'industrie du Niger pour accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Sur un total de 2272 candidats, 102 ont été primés. Ces lauréats par mérite ont reçu de 2 à 25 millions de francs CFA afin de réaliser leur projet Alma Oumarou, parrain de la compétition. Énumère les critères de sélection au micro de Habibou Garba.
Il est important de préciser que ces 102 lauréats ont été sélectionnés sur la base des critères suivants. La faisabilité commerciale, technique et financière des projets, la rentabilité des projets, le profil des promoteurs, c'est-à-dire leur lien avec l'activité prévue, l'impact économique et social ainsi qu'environnemental des projets, c'est-à-dire le potentiel de création d'emplois et de richesses respectueux de l'environnement. Quant à l'évaluation des candidats, elle a été organisée sous forme d'interview de 10 minutes au cours de laquelle le candidat a fait une présentation de son projet d'entreprise devant un jury constitué à cet effet. L'interview avait pour but de tester la capacité du candidat à réaliser le projet soumis, à clarifier les zones d'ombre de son plan d'affaires et à apporter des informations détaillées et ou complémentaires.
Les acteurs de la société civile de Zender, Sadat Ila Damalam et Yahya Badamassi, ont été entendus hier par le juge d'instruction du tribunal de Zender en présence de leur conseil. Ils sont détenus depuis plus d'un mois dans les prisons de Matame et Magaria pour leur combat contre certaines dispositions de la loi de finances 2018. L'avocat Efred Boudal Mouloud leur conseille au micro de notre correspondant local Mustapha Mamansani.
Je suis venu pour aider le juge à comprendre qu'en réalité, il a entre ses mains le dossier des innocents qui ont exercé un droit constitutionnel et qui se retrouvent aujourd'hui en prison. L'instruction est presque même terminée, j'allais dire terminée. Je suis surpris qu'ils se retrouvent en prison et qu'il y ait ce genre des infractions contre eux pour des faits a priori de l'exercice d'un droit constitutionnel. Mais j'ai dit, il y a des arrestations qui peuvent s'expliquer, mais il n'y a jamais de détention de cette nature qui peuvent se justifier. Et je pense qu'il n'est jamais tard de dire le droit et il sera dit. S'il n'est pas dit, nous reviendrons pour poser d'autres actes.
Pour recueillir par Mustapha Mamansani, les deux activistes de l'Union des jeunes nigériens pour le développement UJDN interpellés samedi à Zender sont depuis hier placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Zender. Issoufou Bra et Salissou Ibrahim assument l'entière paternité de leur déclaration, appelant le président Issoufou à briguer un troisième mandat. C'est ce qui ressort des propos du procureur près le tribunal de grande instance de Zender. Chez Boumoussa au micro de Ali Keïta.
Nous avons cru devoir ordonner à la police judiciaire de procéder à leur interpellation et d'ouvrir une enquête pour des faits présumés de propositions non agréées de former un complot pour détruire ou changer le régime constitutionnel, d'exciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres. C'est des faits qui sont prévus et réprimés par les dispositions des articles 78 et 79 de notre code pénal. Ils ont fait leur déclaration, ils assument l'entière paternité, donc ils n'ont pas mis en cause d'autres personnes. Et pour le moment, c'est les deux seulement qui sont arrêtés. La peine qui est prévue en cas de condamnation dans des situations de cette nature vont de 1 à 9 ans d'emprisonnement et une amende de 50 000 à 2 millions de francs CFA.
Depuis quelques semaines, une information circule sur les réseaux sociaux affirmant la constitution d'une milice à Peuls d'autodéfense. Cette prétendue milice serait un regroupement de Peuls du Niger, du Mali et du Burkina Faso afin de défendre la communauté Peuls de ces trois pays. Diallo Aboubakar, président du Conseil des éleveurs Nord-Tilaberi, apporte un démenti catégorique au micro d'Alassane Kouzi Mahamadou.
Moi, sincèrement, ce que je peux dire, ce que j'ai compris, vraiment, c'est une affaire, ça concerne le centre du Mali. C'est le Massina. Bon, maintenant, chacun raconte, chacun dit ce qu'il pense. Moi, je ne pense pas que le Niger et le Burkina sont impliqués dans cette affaire. C'est le centre du Mali, ça n'a rien à voir avec le long de notre frontière d'ailleurs. C'est les gens du Massina qui ont des problèmes avec des dozos et des bambaras. La réalité, c'est ça. Mais ce que les gens sont en train de raconter, les réseaux sociaux, c'est des Nigériens, ils ne savent même pas ce qui se passe au Mali. Les gens, ils prennent, ils écrivent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est tellement dangereux d'ailleurs. Et c'est même à partir de ces réseaux sociaux qu'on est en train d'envenimer la situation. La réalité de ce mouvement dont on parle, et nous, on n'a même pas vu la véracité de ces faits. Nous, on a vu des gens qui disent que c'est des imaginations, il y a d'autres qui disent vrai. Donc, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est les groupes armés qui sont reconnus, qui sont là, le long de nos frontières, le Gatcha, le MSA et les autres, qui sont là, qui sont en train de poser des actes négatifs contre nos populations. Et ça, c'est une réalité qui est visible, qui n'est pas en tout cas cachée. Mais ces groupes armés peuvent, vraiment, moi, je n'y connais rien de ça.
Diallo Aboubakar, président du Conseil des éleveurs Nord-Tilaberi. Dans la région de Diffa vivent plus de 300 000 réfugiés déplacés internes ou retournés, dont de nombreux enfants séparés de leur famille à cause du conflit Boko Haram. Afin de retrouver leur famille, un programme dit de réunification des familles a été initié avec différents intervenants dans la dite région, ce qui a permis à une bonne dizaine d'enfants de retrouver leurs parents. Assoumana Soumaïla, chef de base SOS Diffa, au micro de Adam Baboukarna.
Ces enfants à SOS sont au nombre de 100. Parmi les 100, nous avons un programme de réunification d'au moins 20 enfants. Et sur les 20 aujourd'hui, nous avons des agents IDTR qui font la recherche sur le terrain avec des photos au niveau des sites, au niveau des camps. Et ces recherches-là ont été fructueuses. Aujourd'hui, nous avons déjà réunifié 10 enfants non accompagnés et séparés. Ces réunifications-là sont souvent des réunifications transfrontalières qui vont aller jusqu'au Nigeria. Les 10 qu'on a réunifiés, ce sont des enfants qui ne connaissent pas là où se trouvent leurs parents. Pour réunifier un enfant, d'abord, il faut avoir des informations sur ses parents. Si on a les informations, si c'est une réunification qui dépasse les frontières du Niger, nous allons collaborer avec le HCR, avec le CICR, qui va aller jusque dans le pays mener des enquêtes, s'assurer que réellement les parents là, ce sont les vrais parents de l'enfant.
Assoumana Souleymane, chef de base SOS Diffa. La coopération transfrontalière est définie selon l'article 1 de la Convention de l'Union africaine comme tout acte ou toute politique qui vise à promouvoir et à renforcer les relations de bon voisinage entre communautés frontalières, collectivités et administrations territoriales ou tout autre acteur concerné relevant de deux ou plusieurs États. Quels sont les avantages d'une coopération transfrontalière? El Hadji Yahya Namasa Khan, directeur de la coopération administrative transfrontalière au ministère de l'Intérieur, au micro de Haruna Soumaï Salé.
La coopération transfrontalière présente des avantages indéniables en ce sens que la mutualisation des ressources pour coordonner les politiques de développement permet de constituer des territoires gagnants, c'est-à-dire les communes mutualisent leurs ressources pour réaliser des investissements ensemble, c'est-à-dire à la longue vous allez vous retrouver avec des communes qui ont atteint un niveau de développement tandis qu'à elles seules, elles ne peuvent pas réaliser certains des investissements. Donc sur le plan économique, vraiment c'est important. Sur le plan paix et sécurité, la co-gestion des espaces frontaliers est devenue un facteur de stabilisation des frontières et d'intégration régionale. Donc, en un mot, la co-gestion des espaces frontaliers est un vecteur de la paix. Quand deux communautés s'entendent pour gérer ensemble la sécurité de leur espace, il va de soi qu'il y aura moins de conflits entre les deux communautés d'abord. Les bandits ne trouvant pas refuge dans ces communautés-là et on peut espérer que la sécurité est plus ou moins garantie.
Propos recueillis par Aouna Soumé Salé. Les travaux de la conférence internationale sur la Libye organisée sous l'égide des Nations Unies ont pris fin hier mardi à Paris. Les quatre principaux acteurs de la crise politico-militaire libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, le premier ministre Fayez al-Sarraj, le président du Parlement Aguila Salah Issa et le président du Haut Conseil d'État Khaled al-Misri, se sont engagés à ce que l'élection présidentielle et les législatives aient lieu le 10 décembre de cette année, rapporte Jeune Afrique. Le document lu à la presse insiste sur l'adoption d'un calendrier pour l'organisation d'élections, sur le besoin d'unifier les institutions et en premier lieu la Banque centrale. La déclaration n'est pas encore signée par ces derniers. Chacun veut pouvoir présenter le test à ses mandants ou son clan en Libye avant de le parapher. Le syndicat des enseignants-chercheurs de l'université de Maradi a exigé hier du ministre des enseignants des enseignements supérieurs le retrait de sa lettre demandant le report de l'élection du recteur et vice-recteur pour cause de perturbation dans la dite université. Une élection prévue initialement pour le samedi 2 juin prochain. Pour ce syndicat, la raison du report avancé par le ministre ne tient pas la route. Docteur Abdoul Babaye Mansani, secrétaire général du SNEX Maradi, au micro de Mohamed Maman.
Aucune perturbation. On fait les cours normalement, on fait nos examens normalement, on fait nos recherches normalement. Les étudiants sont dans leur campus sans problème. S'il n'y a pas une certaine sérénité, on ne peut pas se réunir pour cette déclaration. Le ministre n'a pas maintenant compétence à annuler une élection. Une élection, il y a des procédures. Dans les cas de report, c'est quand les élections vont se dérouler pendant les vacances. Donc, sauf s'il y a une autre raison que nous ignorons. Et on compte vraiment tenir ces élections, vaille que vaille. Donc, il y a un article de la Constitution qui dit, l'article 15, qui dit que nul n'est tenu de respecter un ordre manifestement illégal. Donc, nous, on constate que cet ordre-là, il est illégal. Le recteur, c'est pas lui qui a ouvert l'élection, c'est l'ESI qui a ouvert l'élection. Donc, maintenant, il n'y a personne qui peut nous dire qu'on peut annuler cette élection-là.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
18h passées de 11 minutes, la partie magazine de ce journal consacrée donc à la dénaturation du Tobey Tobey, une pratique qui consiste à transformer les enfants en clowns dans la nuit pendant le Ramadan et ce à partir du 15e jour.
Tobey 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 ga dodo ga zunku ga dodo da fuka girbi ma kalgu tunan di.
On commence le tobey tobey le 13e jour du mois de Ramadan pour l'arrêter le 20e jour parce que cela se fait en fonction du clair de lune. Et c'est dans la joie et l'allégresse que les enfants le font de porte à porte. Dans chaque famille, on donne au tobey des céréales. C'est un acte de convivialité à cause du carême. C'est une culture liée à la religion. On a choisi de faire le tobey tobey dans le mois béni de Ramadan pour faire valoir la fraternité et le pardon au sein de la Oumma. À notre temps, nous ne tatouons pas nos corps avec du calcaire blanc. Nous attachons une paire de chaussures pour faire des grandes oreilles et nous attachons aussi des torchons pour faire peur. Même les enfants pleurnichards, on les calme en disant que le tobey arrive et ils se taisent. Car ça fait vraiment un peu peur. Il n'y a que les garçons qui font le tobey tobey. Aucune fille n'y participe. De nos jours, si des tobey se rencontrent, on entend les enfants dire que les tobey s'arrachent le butin. C'est une nouvelle pratique que nous n'avons pas connue. Ces derniers temps, le tobey tobey a été dénaturé. Ici à Niamey, j'ai l'habitude de voir au niveau des feux optiques des carrefours, des enfants se badigeonner le corps avec du calcaire blanc pour ressembler à Satan ou autre chose en plein jour. Le tobey tobey ne se fait pas la journée. On le fait la nuit et seulement avec le clair de lune, c'est-à-dire entre le 13e et le 20e jour du mois. Dans les zones Hausa, le tobey commence le 10e jour. Chacun a sa manière de faire, mais avec les mêmes objectifs. De nos jours, ils l'ont transformé en un moyen de guerre. gain facile. Malgré les conseils et appels à l'ordre, ils continuent à quémander et finiront sans doute par voler. Surtout s'ils rentrent dans les maisons vides. Or, dans le passé, s'il n'y a personne dans la maison, on ne rentre même pas. Ce que nous gagnons entre le 13e et le 20e jour du mois, certains ne le partagent qu'à la fin. Et d'autres préfèrent le partager chaque jour. Chacun prend sa part et l'amène à la maison. Aucun parent ne te reproche et ne te refoule. Que ce soit du mil, du coton, de la pâte ou de la boule, on le prend. Il y en a même qui donnent un peu d'argent. Mais de nos jours, on entend les enfants dire clairement que s'ils trouvent de l'argent, ils le prennent, s'ils trouvent du sucre, ils le prennent. Nous ne disons rien de cela.
C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et retrouvez tout de suite le forum du studio Kalangu.
De Filingué à Agadez,
de Tawa à Maradi et à Zander,
suivez les programmes du studio Kalangu sur votre radio.
Studio Kalangu, au rythme du Niger.